Peu d'années après cette époque, il s'offrit une nouvelle occasion pour mettre en avant ce droit d'élire nos rois. Guillaume n'ayant eu aucun enfant, la reine Anne qui lui succéda n'en ayant pas eu non plus, le Parlement eut encore à s'occuper de la succession à la couronne et des moyens d'assurer plus fortement la liberté du peuple. A-t-il agi dans cette seconde occasion d'après les principes du Old Jewry, afin de légaliser le nouvel établissement de la couronne? Non. Il se conforma aux principes qui avaient prévalu dans l'acte de la Déclaration des droits, comme indiquant, avec plus de précision, les personnes de la ligne protestante qui étaient appelées à régner. On remarque dans cet acte, toujours dicté par le même principe de politique, que ce qui intéresse notre liberté et que ce qui regarde le droit de succession au trône est incorporé dans le même texte pour n'en faire qu'une seule et même chose. Loin de penser à ce droit de choisir ceux qui nous gouvernent, il est déclaré qu'il est d'une nécessité absolue pour la paix, la tranquillité et la sécurité de ce royaume, que la succession continue dans cette ligne, la ligne protestante qui descendait de Jacques Ier, et qu'il est également urgent pour la nation de maintenir à l'avenir un ordre de succession positif auquel les sujets auraient toujours recours comme à leur sauvegarde. Ces deux actes, dans lesquels se font entendre les oracles clairs et infaillibles qui ont dirigé toute la politique de la Révolution, au lieu de présenter de ces expressions trompeuses et énigmatiques sur le droit de choisir ceux qui nous gouvernent, prouvent jusqu'à la démonstration combien la sagesse de la nation était éloignée de vouloir faire une loi générale d'un cas de nécessité. Sans doute, lors de la Révolution, on s'écarta un peu pour cette fois de l'ordre strict et régulier de la succession dans la personne du roi Guillaume. Mais il est contre tous les vrais principes de la jurisprudence d'établir en principe une loi faite dans un cas particulier et pour un individu particulier. Privilegium non transit in exemplum. S'il y eut jamais un temps favorable pour établir en principe qu'un roi choisi par le peuple était le seul qui fût légal sans contredit, c'était celui de la Révolution. Si l'on ne l'a pas fait alors, c'est une preuve que la nation pensait qu'on ne devait jamais le faire en aucun autre temps. Il n'y a personne qui ignore notre histoire, au point de ne pas savoir que dans le Parlement, le plus grand nombre dans chaque parti était si peu disposé à rien faire de conforme à ce principe, qu'en premier lieu, ils étaient déterminés à placer la couronne vacante non pas sur la tête du prince d'Orange, mais sur celle de sa femme Marie, fille du roi Jacques, aînée des enfants de ce roi, dont il reconnaissait indubitablement le droit. Ce serait vous rappeler une histoire bien rebattue que de réunir sous vos yeux toutes ces circonstances qui démontrent que l'avènement de Guillaume n'a pas été à proprement parler un choix, mais que, pour tous ceux qui ne souhaitaient pas en effet de rappeler le roi Jacques, ou ce qui serait revenu au même d'inonder le royaume de sang, exposé aux mêmes dangers auxquels on venait d'échapper, la religion, les lois et la liberté, c'était véritablement une résolution de nécessité dans toute l'étendue de signification morale que l'on peut donner à ce mot. Au surplus, il est très curieux d'observer dans cet acte comment, dans un cas très particulier, où le Parlement s'écartait de l'ordre exact de la succession en faveur d'un prince qui, quoiqu'il ne fût pas le plus près, était cependant peu éloigné de la ligne qui avait droit à la couronne avant lui, Lord Somers se comporta dans la rédaction délicate de ce bill appelé « Déclaration de droit » dont il fut chargé. Il est curieux d'observer avec quelle adresse cette interruption accidentelle dans l'ordre de la succession est voilée à tous les regards. On s'attacha dans cet acte de nécessité à tout ce qui pouvait maintenir l'idée d'une succession héréditaire. Et cet homme célèbre et la législature qui l'a suivi n'ont pas manqué de suivre la même marche et de ramener tous les esprits à ce principe d'hérédité. Ce rédacteur habile, quittant le style sec et impératif d'un acte du Parlement, entraîne les pairs et les communes dans un pieux élan législatif. C'est alors qu'il déclare qu'il regarde comme un effet merveilleux de la Providence, comme un effet de la bonté miséricordieuse de Dieu, pour cette nation, d'avoir conservé les personnes royales de leur majesté, de les avoir heureusement fait régner sur le trône de leurs ancêtres, et que pour ce bienfait, ils adressent au ciel du fond de leur cœur, des prières et des remerciements. Le Parlement avait évidemment en vue l'acte de reconnaissance de la reine Élisabeth et celui de Jacques Ier, tous deux si énergiquement déclaratoires sur la nature héréditaire de la couronne. Et ils suivirent en grande partie, avec une précision presque littérale, les mots et même la forme d'action de grâce que l'on trouve dans ces vieux statuts déclaratoires. Les deux chambres, dans cet acte du roi Guillaume, n'ont pas remercié Dieu de ce qu'il leur avait fourni une si belle occasion de faire valoir le droit de choisir ceux qui nous gouvernent, et encore moins procéder à une élection, ce seul titre légal à la couronne. Elles ont regardé au contraire comme un effet de la Providence d'avoir échappé même à la seule apparence d'une chose semblable. Elles ont jeté un voile politique et adroitement tissu sur toutes les circonstances qui pouvaient affaiblir les droits qu'elles avaient en vue de perpétuer dans un meilleur ordre de succession ou qui auraient pu servir d'un exemple pour s'écarter par la suite d'un plan qu'elles venaient de fixer à jamais. En conséquence, les deux chambres, ne voulant relâcher aucun des nerfs de notre monarchie, voulant au contraire prescrire une conformité bien stricte aux usages pratiqués par nos ancêtres, ainsi qu'on le voit dans les statuts déclaratoires de la reine Marie et de la reine Élisabeth, dans la clause qui suit, ils reconnaissent leur majesté revêtue de toutes les prérogatives légales de la couronne, déclarant qu'en elles, elles sont pleinement, à bon droit et entièrement investies, incorporées, unies et annexées. Dans la clause qui suit celle-ci, pour prévenir toute demande qui pourrait émaner d'anciens prétendus titres à la couronne, il est déclaré, ayant aussi le soin de conserver le même style, la même politique traditionnelle, et de répéter comme une sorte de rubrique les expressions des précédents actes d'Élisabeth et de Jacques, que de la stabilité dans l'ordre de succession dépendent, sous la protection de Dieu, l'unité, la paix et la tranquillité de cette nation. La législature a reconnu qu'un titre de succession douteux ressemblerait trop à une élection et qu'une élection serait entièrement destructive de l'unité, de la paix et de la tranquillité de cette nation, chose qu'elle regardait comme d'une considération de quelque importance. Pour nous les procurer, et par conséquent pour écarter à jamais la doctrine du old jury, ce droit de choisir ceux qui nous gouvernent, elle ajoute une clause extraite du précédent acte de la reine Élisabeth, où l'on trouve le gage le plus solennel qu'il soit possible de donner en faveur de la succession héréditaire et la renonciation la plus formelle qu'il soit possible de faire au principe que cependant cette société lui impute. Les lords spirituels et temporels et les communes, au nom de tout le peuple sudit, se soumettent eux-mêmes fidèlement et humblement, eux, leurs héritiers et leur postérité à jamais, et promettent fidèlement qu'ils soutiendront, maintiendront et défendront leur sudite majesté, et aussi l'ordre de succession à la couronne, ainsi qu'ils viennent de la spécifier et de la fixer dans toute la force de leur pouvoir, etc., etc. Il est si loin d'être vrai que nous ayons acquis par la Révolution le droit de choisir nos rois, que, l'eussions-nous possédé auparavant, la nation anglaise y a alors solennellement renoncé et l'a abdiqué à jamais pour elle-même et pour sa postérité. Ces messieurs peuvent être aussi fiers qu'il leur plaira de leur principe Whig. Quant à moi, je ne désire pas de passer pour un meilleur Whig que Lord Somers. Je ne désire pas de mieux entendre les principes de la Révolution que ceux qui l'ont conduite et terminée, ou de lire dans la Déclaration des droits quelques mystères inconnus à ceux dont le style pénétrant a gravé dans nos règlements et dans nos cœurs les mots et l'esprit de cette loi immortelle. Il est vrai qu'à la faveur des pouvoirs qui dérivaient de la force et de l'occasion, la nation était en quelque sorte alors libre de prendre le parti qu'il lui plairait pour remplir le trône. Mais elle n'était libre d'agir ainsi que sur les mêmes fondements d'après lesquels elle aurait été libre de détruire la monarchie et toutes les autres parties de notre Constitution. Cependant, le législateur n'a pas pensé qu'un changement aussi hardi fût compris dans la compétence de ses pouvoirs. Il est en vérité bien difficile, et peut-être impossible, de donner des bornes à la compétence abstraite du pouvoir suprême, tel qu'il était exercé alors par le Parlement. Mais quant à la compétence morale, celle qui, dans l'exercice même d'un pouvoir plus incontestablement souverain, soumet la volonté du moment à la raison permanente, aux maximes constantes de la fidélité, de la justice et d'une politique fondamentale et invariable, ces limites sont parfaitement intelligibles et vraiment impératives pour ceux qui exercent quelque autorité dans l'État, sous quelque nom ou à quelque titre que ce soit. La Chambre des Pairs, par exemple, n'est pas compétente moralement pour dissoudre la Chambre des communes. Pas davantage pour se dissoudre elle-même, ni pour abdiquer, si elle le voulait, la part qui lui appartient dans la législature du royaume. Quoiqu'un roi puisse abdiquer pour sa personne, il ne peut abdiquer pour la monarchie. Par une raison aussi forte, ou plus forte encore, la Chambre des communes ne peut renoncer à la portion d'autorité qui lui appartient. L'engagement et le pacte social, ce qu'on appelle généralement la Constitution, défendent telle invasion ou tel abandon. Les parties constituantes d'un État sont obligées de conserver leur foi publique les unes à l'égard des autres et à l'égard de tous ceux qui tirent de leur engagement quelque sérieux intérêt, autant que l'État tout entier doit tenir sa foi avec les communautés séparées. Autrement, la compétence et le pouvoir seraient bientôt confondus l'un avec l'autre et il ne resterait plus d'autre loi que la raison du plus fort. D'après ce principe, la succession à la couronne a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, une succession héréditaire par la loi. Dans l'ancienne ligne, elle était telle par la loi commune. Mais aujourd'hui, c'est en vertu d'une loi établie, d'un statut conforme au principe de la loi commune, dont la substance n'est pas changée, mais dont on a réglé le mode, et d'un statut dans lequel on a défini les personnes. Note. Il est sans doute inutile de placer ici une note particulière pour faire connaître la différence qui existe entre la loi commune en Angleterre et la loi établie, ce qu'on appelle « common law » et « statute law ». Ces deux espèces de lois sont de la même force et dérivent d'une autorité semblable puisqu'elles émanent du consentement général et du pacte de la convention sociale « communi sponsione rei publicae » et comme telles, elles obligent également et réciproquement le roi et le peuple, aussi longtemps que leurs dispositions sont observées, et c'est ainsi qu'elles perpétuent l'existence d'un corps politique de la même nature. Si nous ne voulons pas souffrir que l'on nous égare dans toutes les subtilités d'une métaphysique sophistique, il est très aisé de concilier avec l'existence d'une règle fixe l'usage d'une dérogation occasionnelle, de consacrer le principe sacré de l'hérédité de la couronne avec le pouvoir de changer son application quand il se présente un cas d'une nécessité impérieuse, et même dans cette extrémité, si l'on veut évaluer l'étendue de nos droits d'après l'usage que nous en avons fait lors de la Révolution, cette altération ne peut avoir lieu qu'à l'égard de la partie pécante seulement, qu'à l'égard de celle qui nécessite la déviation. Et même, on doit alors l'effectuer sans décomposer la masse entière du corps civil et politique sous le prétexte de vouloir créer, avec les premiers éléments de la société, un ordre de choses tout à fait nouveau. Un État qui serait privé des moyens de faire quelques changements serait privé, par cela seul, de ceux de se conserver. S'il n'a pas ce pouvoir, il risque même de perdre la partie de sa constitution qu'il désirait de conserver le plus religieusement. Ces deux principes de conservation et de redressement opérèrent fortement à ces deux époques critiques de la Restauration et de la Révolution, lorsque l'Angleterre se trouva sans roi. À ces deux époques, la nation avait perdu le lien d'union de son antique édifice. Elle ne détruisit pas pour cela sa composition tout entière. À ces deux époques, au contraire, elle régénéra seulement la partie défectueuse de cette ancienne constitution en conservant les parties qui n'étaient pas altérées. Elle conserva ces anciennes parties exactement comme elles étaient, et elle fit en sorte que la partie renouvelée pût s'y adapter. Elle agit par le moyen des masses organisées de notre vieille forme d'organisation, et non par celui des molécules organiques d'un peuple tout décomposé. Dans aucun temps, peut-être, la souveraine législature n'a montré un intérêt plus tendre pour ce principe fondamental de la Constitution anglaise qu'à cette époque de la Révolution où elle dévia de la ligne directe de la succession héréditaire. La couronne fut portée un peu au-delà de la ligne qu'elle avait parcourue jusqu'alors. Mais cette nouvelle ligne partait de la même souche. C'était une branche encore appelée à hériter, une branche du même sang, distinguée seulement par le titre de la branche protestante. Donc, lorsque la législature, en altérant la direction, eut soin de conserver le principe, elle prouva qu'elle le regardait comme inviolable. Le même principe, longtemps avant l'époque de la Révolution et dans nos temps anciens, avait servi de guide pour perfectionner cette loi de la succession. Quelque temps après la conquête, de grandes questions s'élevèrent sur le principe légal de l'hérédité. On mit en doute si l'héritage per capita ou celui per stirpes serait préféré. Mais soit que l'héritier par tête fût exclu pour faire place à l'héritier par souche, soit qu'au contraire l'héritier par souche fût exclu, soit que l'héritier protestant fût préféré au catholique, le principe de l'hérédité survécut toujours avec une sorte d'immortalité à toutes ces transmigrations. Multosque per annos stat fortuna domus et avi numerantur avorum. Virgile, Géorgique, des abeilles. La ligne immortelle règne en succession certaine, la fortune de la famille demeure, et contient des aïeux et des aïeux la longue liste. Traduction de Dryden. Tel est l'esprit de notre Constitution, non seulement dans le cours ordinaire des choses, mais même dans toutes nos révolutions. De quelque manière qu'aucun prince soit monté sur le trône, soit qu'il ait dû sa couronne à la loi, soit qu'il l'ait conquise par la force, le principe de l'hérédité de la succession a toujours été continué ou adopté. Les messieurs de la Revolution Society n'ont vu dans celle de 1688 que la déviation de la Constitution, et ils ont pris la déviation du principe pour le principe lui-même. Ils prennent peu garde aux conséquences évidentes de leur doctrine, quoiqu'ils eussent dû apercevoir qu'elle ne laissait aucune authenticité positive à un grand nombre des institutions positives de ce royaume. Quand on a une fois établi une maxime aussi insoutenable que celle-ci, que le trône n'est légalement occupé que par élection, aucun des actes passés par les princes qui ont régné avant cette époque imaginaire d'une élection ne peuvent être valides. Veulent-ils, ces théoristes, imiter quelques-uns de leurs prédécesseurs qui arrachèrent les corps de nos anciens souverains au repos de leur tombe? Leur projet est-il de condamner et de frapper de nullité tous les souverains qui ont régné avant la Révolution et conséquemment de déshonorer et de souiller le trône d'Angleterre par cette tâche infâme d'une usurpation continuelle? Leur projet est-il de rendre caduque, d'annuler ou de remettre en question de nouveau, tout ensemble, avec tous les titres de tous nos rois, ce grand corps de nos statuts qui ont été passés en force de loi sous les règnes successifs de ceux qu'ils ne traitent que d'usurpateurs, de rendre nulles des lois d'une valeur inappréciable pour notre liberté, d'une valeur aussi grande au moins qu'aucune de celles qui ont été passées au temps de la Révolution ou depuis cette époque? Si les rois qui ne devaient pas leur couronne au choix de leur peuple n'avaient pas de titre pour faire des lois, que deviendra notre statut d'étalagio non concedendo, celui de Petition of Right, ou l'acte de habeas corpus? Tous ces nouveaux docteurs des droits de l'homme prétendent-ils assurer que Jacques II, qui fut roi comme étant le plus proche par le sang, conformément aux règles d'une succession qui n'était pas réglée alors comme elle l'a été depuis, ne fut pas dans le fait et dans la réalité très légitimement roi d'Angleterre, avant qu'il eût fait aucun de ces actes qui ont été justement regardés comme une abdication de sa couronne? S'il ne l'avait pas été, combien de troubles qui ont eu lieu à cette époque dans le Parlement auraient été évités? Mais Jacques était un mauvais roi, revêtu d'un bon titre, et non pas un usurpateur. Les princes qui succédèrent en vertu de l'acte du Parlement, qui plaça la couronne sur la tête de l'électrice Sophie et de ses descendants, furent rois ainsi que lui, par le droit d'héritage. Jacques fut roi suivant la loi, comme cela fut confirmé dans son avènement à la couronne. Et les princes de la maison de Brunswick furent appelés au trône, non pas par élection, mais par la loi, comme cela a été confirmé aux différents avènements des princes protestants qui y sont parvenus, successivement, comme je me flatte de l'avoir assez complètement démontré. La loi par laquelle cette famille royale est spécialement appelée à la succession est l'acte de la 12e et de la 13e année du règne du roi Guillaume. nous sommes liés par les expressions de cet acte, nous et nos héritiers, et notre postérité envers eux, leurs héritiers et leur postérité, tant qu'ils seront protestants indéfiniment. Les mots sont les mêmes que ceux qui, dans la déclaration de droit, nous liaient aux héritiers de Guillaume et de Marie. Par là, on a rendu inviolable à la fois et l'hérédité de la couronne et l'hérédité de la fidélité. Et quel autre motif, si ce n'eût été celui de déterminer, conformément à l'esprit politique de notre Constitution, une méthode qui fixa ce genre de succession, particulièrement destinée à exclure à jamais l'idée d'un choix du peuple, aurait fait dédaigner au Parlement les choix brillants et nombreux qu'il pouvait faire dans son propre pays et chercher dans une terre étrangère une princesse d'où devait sortir la race de nos rois et à laquelle il devrait le droit de gouverner des millions d'hommes pendant une longue suite de siècles. La princesse Sophie a été déclarée dans l'acte de la 12e et de la 13e année du roi Guillaume, la souche et la tige d'où dériverait l'ordre de l'hérédité pour nos rois. Et ce n'était pas pour ses mérites personnels dans l'administration de pouvoir qu'elle n'aurait pas pu exercer, et que dans le fait elle n'a jamais exercé. Elle a été adoptée par une raison et par une seule raison, parce que, dit l'acte, la très excellente princesse Sophie, électrice et duchesse d'Ouertière d'Hanovre, est fille de la très excellente princesse Élisabeth, de son vivant reine de Bohême, laquelle était fille de feu notre souverain et seigneur, roi Jacques Ier, d'heureuse mémoire, et est, par cette raison, déclarée la plus proche en ordre de succession dans la ligne protestante, etc. Et la couronne passera à ses héritiers protestants. Le Parlement a non seulement déterminé que la ligne future de nos rois dériverait de la princesse Sophie, ce qu'il a regardé comme un point très important, mais de plus remarqué quel soin il a eu de remonter par elle à l'ancienne souche de l'héritage dans la personne du roi Jacques Ier, afin que la monarchie pût conserver dans tous les âges une unité sans interruption et pût être maintenue, d'accord avec notre religion, dans cette antique manière de descendance, dans laquelle, si nos libertés avaient une fois couru quelques dangers, elles avaient du moins été souvent préservées au milieu des orages et des troubles suscités à l'occasion de différentes prérogatives et de différents privilèges. Le Parlement fit bien. L'expérience ne nous a point appris que dans aucune autre forme ou dans aucune autre méthode que celle d'une succession héréditaire à la couronne, nos libertés et nos droits héréditaires eussent pu être perpétués et nous être transmis plus intacts. Une crise irrégulière et convulsive peut être nécessaire pour chasser une maladie irrégulière et convulsive. Mais l'ordre de succession est l'état de santé habituel de la Constitution anglaise. Croit-on que le Parlement, lorsqu'il fixa la couronne dans la branche hanovrienne qui dérivait par les femmes de Jacques Ier, n'eût pas aperçu les inconvénients qui pouvaient résulter du danger d'avoir deux, trois étrangers et peut-être plus appelé au trône de la Grande-Bretagne? Non, il sentait tous les maux qui pouvaient en résulter, et il faisait peut-être plus que les sentir. Mais on ne peut pas donner une preuve plus forte de la conviction pleine où était la Grande-Bretagne que les principes de la Révolution ne l'autorisaient pas à élire des rois à sa fantaisie, sans aucune autre considération pour les anciens principes fondamentaux de notre gouvernement que de l'avoir continuant à adopter un plan de succession héréditaire dans la ligne protestante, malgré les inconvénients attachés à ce que cette ligne fût étrangère, malgré qu'elle les eût devant les yeux et qu'ils agissent sur son esprit avec la plus grande force. J'aurais été honteux, il y a quelques années, d'insister autant sur un sujet si évident par lui-même et qui a si peu besoin de développement. Mais je l'ai fait parce que, maintenant, cette nouvelle doctrine séditieuse et inconstitutionnelle est publiquement avouée, publiée, imprimée. L'aversion que je sens pour les révolutions, dont si souvent les premiers signaux ont été donnés dans la chair, l'esprit de changement qui se manifeste, le mépris total des anciennes institutions qui dominent parmi vous, et qui pourraient bien dominer aussi parmi nous, dès qu'on les met en opposition avec la convenance du moment présent, ou avec l'attrait de l'inclination du jour. Toutes ces considérations, à mon avis, prouvent combien il est loin d'être imprudent de reporter notre attention en arrière et de la fixer sur les vrais principes de nos propres lois domestiques, que vous, mon cher Français, vous devriez commencer à connaître, et que nous, nous devrions continuer à chérir. Nous ne devrions pas, ni sur l'une, ni sur l'autre rive de la Manche, nous laisser duper avec les marchandises contrefaites que quelques personnes, doublement trompeuses, exportent d'abord chez vous avec un but illicite, comme des matières premières provenant de notre sol, quoiqu'elles y soient totalement étrangères, afin de les faire revenir ensuite en fraude dans leur propre patrie, fabriquées à la nouvelle mode de perfectionner la liberté à la parisienne. Le peuple d'Angleterre ne singera pas des modes dont il n'a jamais essayé, et il ne retournera pas à celles qu'il a trouvées malheureuses à l'épreuve. Il regarde l'hérédité légale de la succession au trône comme un des droits de la nation, et non pas comme un de ses griefs, comme un avantage, et non pas comme un désavantage, comme un soutien de sa liberté, et non pas comme un moyen de servitude. Il regarde l'ensemble de son gouvernement, tel qu'il est, comme d'une valeur inestimable, et il est persuadé que la succession paisible à la couronne est un des gages de la stabilité et de la perpétuité de toutes les parties de notre Constitution. Avant de passer à un autre article, je vous demanderai la permission de m'arrêter à un des misérables artifices que les fauteurs de la doctrine de l'élection à la couronne sont toujours prêts à employer pour répandre de la défaveur sur ceux qui soutiennent les vrais principes de notre Constitution. Dès que vous soutenez la cause de l'hérédité de la couronne, ces sophistes supposent aussitôt et des causes et des intérêts particuliers en faveur desquels ils supposent aussi que l'on agit. Rien de plus commun que de les voir traiter leurs disputes comme s'ils les soutenaient contre quelques-uns de ces fanatiques d'esclavage tombés aujourd'hui dans le mépris, qui soutenaient autrefois que la couronne était de droit divin héréditaire et inviolable, chose que pas une créature ne voudrait soutenir aujourd'hui. Ces anciens fanatiques d'un seul pouvoir arbitraire dogmatisaient comme si la royauté héréditaire était le seul gouvernement légal qu'il y eût au monde. Exactement de même que les fanatiques modernes du pouvoir arbitraire du peuple soutiennent que l'élection du peuple est le seul moyen de conférer une autorité légale. Ces vieux enthousiastes de la prérogative royale étaient fous et peut-être même impies dans leur doctrine, comme si la monarchie avait reçu plus particulièrement qu'aucune espèce de gouvernement la sanction divine, et comme si le droit de gouverner par héritage était à la rigueur irrévocable dans chaque personne et dans toutes les circonstances. Irrévocabilité qui n'est dans l'essence d'aucun droit civil ou politique. Mais une opinion absurde sur le droit héréditaire du roi à la couronne ne peut pas porter préjudice à celle qui est raisonnable et fondée sur des principes solides de législation et de politique. Si tous les gens de loi et les théologiens corrompaient par leurs absurdes systèmes tous les sujets qu'ils traitent, il ne resterait plus ni loi ni religion dans ce monde. Mais les systèmes absurdes que l'on peut établir sur une question ne justifient pas ceux qui leur sont contraires dans l'extrémité opposée et n'autorisent personne à controuver des faits ni à publier des maximes dangereuses. La seconde résolution de la Revolution Society est le droit de déposer ceux qui nous gouvernent pour mauvaise conduite. Peut-être que la crainte que nos ancêtres ont eue d'offrir un tel exemple, celui de déposer pour inconduite, a été cause que dans la déclaration de l'acte qui établit l'abdication du roi Jacques, ils ont été trop sur leur garde et même trop minutieux, si l'on peut dire que ce soit là un tort. Mais toutes ces précautions et toutes ces réunions de circonstances servent à faire voir l'esprit de prudence qui régnait dans les conseils de la nation. Conseil dirigé cependant par des hommes que l'oppression qu'ils venaient de surmonter avait irrité, que leur triomphe avait exalté et que leur situation disposait naturellement à des partis extrêmes et violents. Elles servent à faire connaître avec quelle sollicitude ces grands hommes qui influaient sur la conduite des affaires à cette grande époque s'efforçaient à faire naître du sein de la Révolution une paix durable et non pas à en faire, pour l'avenir, une pépinière de beaucoup d'autres révolutions. Il n'est pas un seul gouvernement qui pût subsister un seul instant s'il était possible de les renverser pour une chose aussi vague et aussi indéfinie que que l'idée qu'on a de l'inconduite. Ceux qui dirigeaient la Révolution n'ont pas fondé l'abdication virtuelle du roi Jacques sur un principe aussi léger et aussi incertain. Ils ne l'accusaient de rien moins que du projet constaté par une foule d'actes manifestes de renverser l'Église protestante et l'État, ses lois fondamentales et ses libertés incontestables, et d'avoir rompu le pacte primordial entre le roi et le peuple. Ceci est plus qu'inconduite. Une nécessité des plus fortes et des plus supérieures à la loi les détermina à faire cette démarche. Et ils la firent avec cette sorte de répugnance qu'on éprouve quand on agit d'après la plus rigoureuse de toutes les lois. Ce n'était pas dans la perspective de nouvelles révolutions qu'ils plaçaient leur confiance pour la sûreté de la Constitution. Le but politique de toute leur détermination était au contraire de mettre tous les souverains futurs presque dans l'impossibilité de forcer de nouveau le royaume à la nécessité de recourir à des remèdes aussi violents. Ils ont laissé la couronne ce qu'elle a toujours été aux yeux et dans l'esprit de la loi, au-dessus de leur responsabilité. Mais pour rendre la couronne encore plus indépendante, ils ont réuni tout le poids de la responsabilité sur les ministres d'État. Dans le statut du roi Guillaume, appelé « acte déclaratif des droits et libertés des sujets » et pour fixer la succession de la couronne, ils ont établi que les ministres serviraient la couronne conformément aux termes de cet acte. Bientôt après, ils pourvurent aux assemblées fréquentes du Parlement, par le moyen desquelles toute l'administration devait être sous l'inspection constante et sous le contrôle vigilant des représentants du peuple et des magnats du royaume. Dans le grand acte constitutionnel qui suivit, je veux dire celui de la 12e et de la 13e année du règne de Guillaume, nos ancêtres ont établi, pour limiter encore plus la couronne et pour mieux assurer les droits et les libertés des sujets, qu'aucun pardon scellé du grand sceau d'Angleterre ne pourrait être opposé comme exception contre une accusation intentée par les communes assemblées en Parlement. Ainsi, les règles d'administration consignées dans la Déclaration des droits, l'inspection constante des Parlements, l'usage de traduire en justice, parurent des moyens beaucoup meilleurs, non seulement pour assurer la Constitution et la liberté, mais même pour prévenir les vices d'administration, que cette réserve d'un droit si difficile dans la pratique, si incertain dans son emploi, est souvent si pernicieux dans ses conséquences que de casser au gage ceux qui nous gouvernent. Dans ce même sermon, le docteur Price proscrit l'usage de présenter au roi des adresses remplies d'une flatterie et d'une adulation révoltante. Et en cela, il a raison. Au lieu d'employer ce style dégoûtant, il propose pour les occasions où l'on va féliciter le roi de lui dire que Sa Majesté doit se regarder plutôt comme le serviteur que comme le souverain de son peuple. Pour un compliment, cette nouvelle forme d'adresse ne paraît pas très flatteuse. Ceux qui sont serviteurs de nom, aussi bien que des faits, n'aiment pas qu'on leur rappelle ainsi leur situation, leurs devoirs et leurs obligations. L'esclave dit à son maître dans une ancienne comédie « Hec commemoratio » Est quasi exprobatio. Un tel rappel est presque une réprimande. Cela n'est ni plaisant comme compliment, ni salutaire comme instruction. Après tout, si le roi consentait à faire écho, avec cette nouvelle forme d'adresse, à l'adopter dans les mêmes termes, et même à choisir pour protocole de son style royal la dénomination de serviteur du peuple, je n'imagine pas comment, lui ou nous, nous pourrions y gagner quelque chose. J'ai vu des lettres très fières, au bas desquelles on mettait pourtant « votre très humble et très obéissant serviteur ». La domination la plus orgueilleuse qui ait jamais été supportée sur la terre prenait un titre bien plus humble encore que celui qui est maintenant proposé au souverain par cet apôtre de la liberté. Des rois et des nations ont été foulés sous les pieds d'un être qui se faisait appeler le serviteur des serviteurs. Et des bulles ont été envoyées pour déposer des rois, au bas desquels on voyait pour grand sceau le cachet d'un pêcheur. Je n'aurais regardé tout ceci que comme une sorte de futile et vain discours, dans lequel, comme dans une fumée insipide, quelques personnes souffrent que l'esprit de la liberté s'évapore, si ce n'était pas sérieusement, à l'appui de cette idée et de ce système, de casser au gage les rois pour inconduite, que cela est dit. Sous ce rapport, cela mérite quelques observations. Les rois, dans un sens, sont sans contredit les serviteurs du peuple, parce que leur pouvoir n'a pas d'autre but que celui de l'avantage général. Mais il n'est pas vrai qu'ils aient, dans le sens ordinaire, par notre constitution du moins, rien de semblable à ce que sont des serviteurs, dont la situation est par essence d'obéir aux ordres de quelqu'un et d'être changé à volonté. Mais le roi de la Grande-Bretagne n'obéit à personne. Tous les individus, séparément ou collectivement, sont sous lui et lui doivent une obéissance légale. La loi, qui ne sait ni flatter ni insulter, n'appelle pas ce magistrat élevé notre serviteur, comme le fait cet humble théologien, mais notre souverain seigneur roi. Et nous, dont le devoir est d'apprendre à ne parler que le langage primitif de la loi, et non pas ce jargon confus de leur chaîne babylonienne, nous l'appelons ainsi. Comme le roi ne doit pas nous obéir, et que c'est à nous à obéir à la loi dans sa personne, notre constitution n'a pris aucune mesure pour le rendre, ainsi qu'un serviteur, responsable en aucune manière. Notre constitution n'a pas l'idée d'un magistrat comme le justicia d'Aragon, ni d'aucune cour légalement commise, ni d'aucune formalité légalement établie pour soumettre le roi à la responsabilité qui convient à tous les serviteurs. En ceci, Sa Majesté n'est pas distinguée de la Chambre des communes et de la Chambre des pairs, qui, chacune dans son caractère public et séparé, n'est tenue à rendre aucun compte de sa conduite. Quoi qu'il plaise à la Revolution Society d'affirmer directement, contre ce qu'il y a de plus sage et de plus beau dans notre Constitution, que le roi n'est que le serviteur du public, créé par lui et responsable à lui. Ce serait bien mal à propos que nos ancêtres, à l'époque de la Révolution, auraient mérité leur réputation de sagesse s'ils n'avaient pas trouvé d'autre sécurité pour leur liberté qu'en affaiblissant le gouvernement et en rendant son titre précaire. S'ils n'avaient pas trouvé de meilleur remède contre le pouvoir arbitraire que la confusion de l'État. Au surplus, que ces messieurs fassent connaître quel est ce représentant du public devant lequel ils affirment que le roi doit être responsable comme un serviteur, il sera temps seulement alors que je leur produise la loi positive qui affirme qu'il ne l'est pas. La cérémonie de casser au gage les rois dont ces messieurs parlent si à leur aise peut rarement, si même elle peut jamais l'être, être représentée sans le secours de la force. Cela devient alors un cas de guerre et non pas un point de constitution. Le bruit des armes commande aux lois et les réduit au silence. Les tribunaux sont anéantis en même temps que la paix qu'il n'est plus en leur pouvoir de maintenir. La révolution de 1688 a été obtenue par une juste guerre, dans le seul cas où une guerre, et surtout une guerre civile, peut être juste, justa bella quibus necessaria. La question de détrôner les rois, ou si ces messieurs aiment mieux leur façon de parler, de les casser au gage, sera toujours ce qu'elle a toujours été, un cas très extraordinaire et totalement hors de la loi. Une question qui, comme toutes les questions d'État, consiste plus sur certaines dispositions des esprits, sur certains moyens et sur des conséquences probables que sur des droits positifs. De même que ces abus-là ne peuvent pas être d'un genre commun, ce ne doit pas être non plus à des esprits communs à les discuter. La ligne théorique de démarcation qui indique le moment où l'obéissance doit cesser et celui où la résistance doit commencer est en vérité bien douteuse, bien difficile à apercevoir et plus difficile encore à définir. Ce n'est pas un seul acte ou un seul événement qui peut la déterminer. Il faut que l'on ait bien mésusé du pouvoir et que le gouvernement soit dans une grande confusion. Il faut que la perspective de l'avenir soit aussi mauvaise que l'a été l'expérience du passé, avant même que cette idée puisse venir à l'esprit. Quand les choses sont arrivées à cette situation déplorable, la nature même du mal indique celle du remède à ces hommes que la nature a doués des qualités nécessaires pour administrer, dans ces moments extrêmes, cette potion critique, ambiguë et amère, à un état en désordre. Le temps, les occasions, les provocations leur fourniront alors les leçons nécessaires. Le sage se déterminera par la gravité du cas, l'irritable par sa sensibilité à l'oppression, l'esprit élevé par le dédain et par l'indignation qu'il éprouve en voyant le pouvoir confié à des mains qui en sont indignes, le brave et le fougueux par cet amour honorable des dangers dans une cause généreuse. Mais à bon droit ou à tort, une révolution paraîtra toujours la dernière ressource de celui qui pense et de celui qui sait sentir.